Bonjour et bienvenue sur Bouya Presse Radio, édition spéciale Festival Expresso. Au menu aujourd'hui du sport, un sujet de société, de l'écologie, un pseudo-édito de la politique nationale et internationale, un soupçon d'actu people et enfin les conditions de travail d'un grand reporter. Ceci n'est pas un édito. J'aurais pu vous dire, pour commencer mon édito, ce qui ces derniers jours m'ont agacé, attristé, stressé et fatigué. J'aurais pu faire part des sujets qui m'ont fait rire aux éclats, des hauts et des bas qui ont animé nos conférences à la rédac. C'est vrai qu'entre l'amendement contre l'avortement aux États-Unis, la canicule, les piqûres lors des événements publics, le scandale du jeune homme molesté par la sécurité d'Aqua Boulevard, les conséquences de la flambée du prix de l'essence, la recrudescence des cas de Covid, la pénurie de certains produits en raison de la guerre en Ukraine, la diffusion de la photo de Maëva Guénam nue par sa mère, et l'obstination des gens à dire chocolatine au lieu de pain au chocolat, c'est vrai qu'avec tout ce qui fait notre actualité, j'aurais pu tenir avec vous toute la durée de l'émission. J'aurais pu ouvrir cette porte sur tous ces sujets cruciaux. Ah oui, j'allais oublier. Je peux au moins vous dire mon sentiment à propos de la qualité de l'accueil du Festival Expresso cette année. Mais vous savez quoi ? Cette fois, j'ai décidé de la fermer.
Aujourd'hui, en France, on parle des préoccupations contrastées des Français entre questions écologiques et pouvoir d'achat, de ces citoyens déçus par la politique, puis on donnera la parole aux enfants pour réenchanter ce monde de demain.
Aujourd'hui, c'est la fin.
La fin de quoi ? Du monde ou du moi ?
Les deux.
Attends, explique-moi.
La fin du monde, c'est par rapport au changement climatique, car c'est une urgence d'après le dernier rapport du GIEC. D'ailleurs, en France, seulement 40% de la population confirme cette affirmation.
Et pourquoi les hommes ne sont pas d'accord ?
En fait, la plupart sont issus des classes populaires et leur priorité est davantage de finir le mois. Il faut bien payer le loyer, l'essence, les factures, et tout cela en plus d'assurer leurs besoins essentiels.
Donc, si je comprends bien, la question à se poser finalement, c'est comment faire pour qu'ils puissent réussir à vivre dignement tout en préservant la planète.
Totalement. D'ailleurs, il y a un ensemble de solutions. Tout d'abord, on pourrait encadrer les prix de l'essence ou des produits alimentaires pour manger bio à des prix abordables. Il y a aussi repenser l'aménagement du territoire pour qu'il n'y ait pas d'obligation de prendre la voiture. Ou encore de changer les matériaux de construction pour du bois ou de la paille ou encore de la terre, qui sont plus durables et isolants, ce qui permettrait de réduire la facture énergétique des ménages.
Les solutions sont donc nombreuses, si je comprends bien.
Oui, et elle n'oppose pas fin du monde et fin du mois. Il ne reste plus qu'aux politiques à agir.
Vous les politiques, vous êtes tous les mêmes. Menteur mes types, toi Mélenchon, Macron ou Le Pen. C'est prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu mérites, avez la chance qu'on s'abstienne. Dites pas merci.
Rendez-vous aux prochaines présidentielles. Rendez-vous à la prochaine agression sexuelle.
Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est un choix, mais une dernière fois mon bulletin. La prochaine fois, je garde ma voix, tu diras au revoir à Brigitte. Elle qui te sert à rien.
Rendez-vous au prochain présidentiel. Rendez-vous vivement en correctionnel. Prochain présidentiel. Rendez-vous à la prochaine agression sexuelle.
On va dire que c'est...
Toi, Premier ministre, demain, toi, t'es Premier ministre, tu décides de faire quoi ? C'est quoi tes premières mesures ?
De rendre le sport plus accessible, c'est vrai. De donner plus de nourriture au réfectoire, au collège, au lycée aussi.
Demain, Hugo, t'es nommé Premier ministre. Tu décides de faire quoi? C'est quoi tes premières mesures?
Alors, déjà, je fais plus travailler les élèves. Comme ça, on devient premier en intelligence au monde. Et comme ça, après, on devient riche et on achète des pays.
Pourquoi tu fais acheter des pays?
Ben, pour avoir plus de terres et plus de pouvoir dans le monde.
Célia, demain, t'es nommée Première ministre. Quelles sont tes premières mesures?
Alors, je mettrai les serviettes hygiéniques gratuites parce que je trouve que c'est inadmissible qu'elles soient payantes à l'heure d'aujourd'hui.
Emma, tu viens d'apprendre que demain, c'est toi la première ministre. C'est quoi tes premières mesures?
Je changerai le système scolaire et les contenus et la façon de faire les cours.
Qu'est-ce que tu proposerais?
Un système plus Montessori, on va dire. Enfin, moins dans des cases et on nous rentre dans des cases et voilà, faut pas qu'on en sorte. Voilà.
C'est pas déjà le cas?
Non. Là, faut qu'on. Soit on est comme ça et c'est bien, soit on n'est pas comme ça et à ce moment-là, on est en décrochage scolaire. Donc, non. Et les protections hygiéniques gratuites.
Charlotte, la nouvelle vient de tomber. T'es première ministre. Quelles sont tes premières mesures?
Je multiplie les activités comme le Festival Expresso dans les collèges et dans les établissements.
Raphaël, t'es nommé Premier ministre. C'est quoi ta réaction? C'est quoi tes premières mesures?
Je démissionne.
Mais Linda, la nouvelle vient de tomber. T'es Premier ministre. Quelles sont tes premières mesures?
Ah, super. Bah, je vais sauver l'environnement.
Amine, finalement, c'est toi le Premier ministre. C'est toi qui as été nommé. C'est quoi tes mesures?
Arrêter l'école pour tout le monde. Quoi d'autre aussi? Augmenter les impôts.
Léo, t'es Premier ministre, ça y est, la nouvelle est tombée. T'as été nommé. Alors, c'est quoi tes mesures?
J'essaie de réduire les impôts pour les personnes qui sont plus en difficulté et d'augmenter ceux qui sont plus aisés.
Législative. La droite est à poil, la gauche est à nuque. La première s'est déshabillée, la seconde n'est pas vraiment plus couverte. Les Républicains ont pris un vent glacial alors qu'un coup de sirocco gonfle les voix du RN. Ensemble, à Utréchaud, la NUP ne portera pas Mélenchon au sommet. C'est un méchant courant d'air qui a chamboulé l'Assemblée. Le résultat est comme ce texte, confus et déstructuré.
À l'international, un point diplomatique sur les relations entre Poutine et les talibans.
Et si le monde était dangereusement malade? Et si les choix politiques de Vladimir Poutine s'avéraient être à l'origine de cette maladie? Qu'en penses-tu, Charlotte?
C'est vrai, Raphaël, que dernièrement, le président de la Russie a officiellement accordé son soutien aux talibans en les retirant de la liste des terroristes. Pour ce faire, il les a accueillis le 20 octobre 2021 à Moscou, en présence des représentants du Pakistan et de la Chine.
Et pourquoi Vladimir Poutine se tient-il à reconnaître les talibans?
Son objectif, je cite, « les civiliser », empêcher l'ancrage de groupes djihadistes transfrontaliers. En effet, l'affirmation au pouvoir des talibans en Afghanistan risquerait de déstabiliser les pays limitrophes, qui sont pour la plupart des ex-républiques soviétiques. Celle-ci permettant de créer une zone de tampon afin de protéger les frontières de la Russie pour Poutine. Il est donc question de sécuriser les territoires.
Mais pourquoi ça pose un problème aux autres pays?
Eh bien, pour mémoire, l'organisation des talibans est née en Afghanistan en 1994. C'est un groupe armé appartenant à un mouvement fondamentaliste islamiste considéré comme terroriste, entre autres, par l'Union européenne et les États-Unis. Ils gouvernent de façon très autoritaire. Ils suppriment de nombreuses libertés fondamentales. Ils exigent que les Afghans obéissent à leurs ordres, que les femmes, par exemple, soient entièrement couvertes ou encore, selon Amnesty International, ils refusent le droit à l'éducation aux filles de plus de 12 ans.
Du coup, Poutine, qui entre en guerre contre l'Ukraine aux portes de l'Union européenne. Ce même monsieur Poutine qui s'allie avec les ennemis de cette Union européenne et les États-Unis. Sommes-nous donc dans une impasse?
En effet, à mesure que les tensions entre la Russie et les États-Unis se renforcent, l'espoir de la paix s'éloigne d'autant.
Et l'ONU, dans tout ça, peut-elle guérir cette paix fragile?
L'ONU a bel et bien un rôle à jouer. Il faut rappeler que sa mission principale est de garantir la paix dans le monde. Elle est médiateur et se doit d'œuvrer pour empêcher toute déstabilisation de l'ensemble de la région sans pour autant qu'elle ne reconnaisse les talibans. C'est dans ce sens que Vladimir Poutine, en sa qualité de membre permanent aux côtés de la France, des États-Unis, de la Chine et du Royaume-Uni, avait manifesté en août dernier la volonté de réunir le Conseil de l'ONU.
En conclusion,
la paix ne se porte guère bien. La paix est effectivement bien grippée, mais on espère sortir de cette nouvelle guerre froide par les négociations.
Bonjour. Aujourd'hui, dans la rubrique Société, nous allons parler d'un sujet grave, les féminicides. En effet, le 23 juin 2022, nous avons recensé le 59e féminicide depuis le début de l'année 2022.
Nous avons interrogé des personnes dans l'enceinte du festival afin de répondre à nos questions. Comme vous avez vu, certaines questions ont reçu des réponses variées, mais d'autres ont reçu des réponses unanimes.
Lucille, as-tu déjà connu quelqu'un victime de une femme victime de violences conjugales dans ton entourage?
Oui.
Qui ça
Entourage lointain, mais entourage lointain, ouais. Okay.
Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement afin d'arrêter c'est les féminicides et les violences faites aux femmes?
Je pense qu'elles sont insuffisantes puisque les nombres de féminicides ne diminuent pas. Et je pense qu'il y a de vraies choses à faire sur la prise en charge des victimes et l'accompagnement des victimes puisque pour que les femmes elles soient protégées au maximum de leur mari si elles veulent s'en sortir.
Constatez-vous un changement de point de vue ou d'opinion face à ça?
J'ai l'impression qu'on reconnaît de plus en plus les violences conjugales, surtout les violences sexuelles conjugales, et tout le monde commence un peu à comprendre que le couple ne protège pas des violences, et puis même des violences psychologiques, les manipulations, etc., et puis les abus de toutes les sortes. Voilà. Donc, je trouve ça bien qu'on reconnaisse que c'est pas que le couple ne veut pas dire impunité.
Ok, merci.
C'est bon.
Louise, as-tu déjà connu une femme victime de violences conjugales dans ton entourage?
Ouais.
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 Très bien. Que penses-tu des mesures prises par le gouvernement face à ça?
Évidemment que c'est largement, très largement insuffisant, qu'il n'y a pas d'investissement là-dedans, que ça du coup permet un sentiment d'impunité et que ça a même tendance du coup à accélérer ces violences-là et à leur donner de plus en plus d'importance à ce qu'elles prennent de qu'elles soient de plus en plus fréquentes. Voilà, c'est ça la formulation de phrase que je cherchais. Voilà. Et de plus en plus violentes aussi malheureusement.
Et est-ce que tu constates un changement d'opinion ou de point de vue face à ça?
Alors ça je ne saurais pas te répondre parce que c'est quelque chose où moi-même j'ai changé d'opinion très récemment. Ce qui fait que tu as tendance à avoir l'impression que tout le monde a changé d'opinion. Alors qu'en fait, pas tellement, c'est juste que tu vas te retrouver dans des milieux qui pensent pareil que toi. Et que du coup, d'un coup, tu as l'impression de rencontrer plein de gens qui pensent pareil que toi. Alors que c'est pas forcément qu'il y a plein de gens, c'est juste que tu es tombé au bon endroit où il y avait 75 personnes qui. Donc je saurais pas vraiment te répondre très clairement.
Ouais, merci.
Pas de soucis.
Donc on a des questions à te poser. Donc as-tu déjà connu dans ton entourage une femme victime de violences conjugales?
Non, absolument pas.
Ok. est-ce que tu penses qu'il y a un changement d'opinion ou de point de vue face à ça
Sur la maltraitance des les violences conjugales?
Ouais.
Est-ce qu'il y a un changement?
Ouais, un changement de point de vue, un changement d'opinion
Je dirais que ça évolue. Mmh. Ça évolue dans le bon sens, mais il reste encore des lacunes. Okay. Niveau judiciaire, niveau ordre public, donc tout ce qui est fonctionnaire, flics, police, police et gendarmes. Et voilà, je pense qu'ils font de leur mieux, mais il y a encore des lacunes.
Dans le monde du sport, nous nous pencherons sur le parfum de scandale qui précède la Coupe du Monde de football au Qatar.
Bonjour et bienvenue sur Radio Bouya Presse. Aujourd'hui, nous sommes avec Christine et Gérard. Et nous allons demander leurs avis sur l'interdiction des couples LGBT à la Coupe du Monde au Qatar.
Alors, moi personnellement, je pense que c'est pas normal. Et toi, t'en penses quoi, Gérard?
Moi, je suis d'accord. Chacun est libre d'aimer. Il ou elle. Enfin bon, après on s'en fout un peu. Et toi, tu en penses quoi de la Coupe du Monde au Qatar?
Ah, cette fois-ci, la Coupe du Monde se déroulera au Qatar. Super! Ils ont encore foutu des centaines de millions de bifetons dans des stades. Oh là là! Ah, et Gérard, tout ça pour des machines à fric. Parlons pas des ouvriers, ou plutôt des esclaves.
T'as raison, Christine. T'as aussi oublié la partie où ils ont mis 3000 climatisateurs pour soi-disant rafraîchir le monde et servir de morgue pour les ouvriers. Déjà que c'est en hiver, ils rajoutent de l'air frais. Mais qu'est-ce qu'ils sont fatigués?
Ils ont aussi dit qu'ils allaient interdire l'alcool. Plus de blonde pour moi. Je crois que je vais déprimer. En tout cas, ce sera pas pour moi. Je vais boire mon petit pastaga et regarder l'OM. Ah Gérard, écoute, viens on va au Qatar et on leur apprend le parler marseillais. Déjà que c'est des fatigués, vaut mieux les réveiller. Oh, dis-toi que les femmes doivent se déguiser en fantôme.
Ah, tu me mets les nerfs là. Le football, c'est quoi? C'est la famille, les copines, les copains, les bières et un petit côté marseillais.
Du côté des people, focus sur le procès Amber Heard, Johnny Depp qui tourne leur plus mauvais film.
En 2018, un article paraît dans le Washington Post où Amber se présente comme victime conjugale par son conjoint Johnny Depp en avril 2022. 4 ans plus tard, le débat change d'échelle lorsque celui-ci porte plainte pour accusation mensongère.
Le débat sort de la sphère intime. La presse s'en mêle. Encore un scoop de violence sexuelle. Au final, les deux sont perdants. Mais alors qui gagne? Sont-ils les seuls perdants?
En premier lieu, cela pose une question sur la capacité des médias à diaboliser le débat et à en faire un scoop. En second lieu, Amber, perdante, humiliée, considérée comme une mensongère, en cherchée de fame, est-ce bien une vérité? Et quelle séquelle va laisser ce jugement sur les victimes silencieuses?
Enfin, comment faire pour que les médias restent un moyen de soutenir les grandes causes, de porter sur la scène publique les violences faites en intimité sans que le sensationnel ne vienne terrasser les deux parties et la cause initiale défendue?
Dans la rubrique spécial festival, Vie ma vie, de grands reporters sur les pattes de Fadjil Bayat.
Partons ensemble à la découverte d'un métier clé du journalisme, grand reporter. Le grand reporter est un journaliste de terrain. Envoyé par le rédacteur en chef, il travaille sur des événements historiques ou des faits d'actualité marquants, comme des conflits par exemple. Puis il réalise de grands reportages.
C'est notamment le cas de Fadjil Bayat, que nous avons eu la chance de rencontrer aujourd'hui, à l'occasion du festival Expresso qui se déroule à Paris. Fadjil Bayat est pigiste et grand reporter pour la chaîne France 24. Récemment, il est parti réaliser un reportage dans le corridor de Sobolki, situé en Pologne, territoire stratégique prisé des Russes, où il a pu rencontrer des membres de l'armée polonaise.
À travers le récit de son expérience et des réponses à nos questions, nous comprenons qu'au-delà de disposer des qualités de tout journaliste classique, le grand reporter qui couvre un conflit armé ou doit aussi avoir une qualité spéciale, être un négociateur hors pair.
Il nous a confié que...
du corridor. D'ailleurs, le corridor, c'est aussi un espace stratégique militairement. L'OTAN considère que c'est son point faible en Europe, ce corridor, parce que s'il venait à être pris, s'il y avait cette continuité qui était créée entre Kaliningrad et la Biélorussie, en fait, l'OTAN n'a plus de liaison terrestre avec les pays baltes. Donc, impossible d'envoyer par voie terrestre des véhicules, des chars, des blindés, etc., des munitions. Il sera obligé de passer par la mer, par les airs, qui sont des voies plus sensibles pour pouvoir tout simplement envoyer du matériel ou des hommes.
En effet, il faut pouvoir s'adapter s'il y a des imprévus.
En fait, donc on ne fait pas une enquête pour dire « Ah, l'armée, c'est pourri ». Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on leur rend ce service et eux, ils sont déjà contents par ça. Par contre, bien sûr, il y a des choses qu'ils veulent plus montrer, des choses qu'ils veulent moins montrer. Et le but, quand on y est, c'est d'essayer de voir ce que nous, on veut voir. Et eux, ils vont essayer de faire en sorte qu'on voit surtout ce qu'eux veulent montrer. Il faut négocier. En fait, on est là avec notre officier de communication, on lui dit ce qu'on veut faire, elle va nous dire ça c'est pas possible, je lui dis bon bah si ça c'est pas possible, dans ce cas-là je veux autre chose. Et en fait, toute la journée, on va chercher à essayer d'avoir des séquences, à faire céder un peu notre officier pour lui dire ben ça on veut voir, ça c'est vraiment important, le reportage il peut pas exister sans. Et après, l'officier de communication est aussi capable de se mettre de notre point de vue. Ils ont envie que le reportage se fasse à la fin, ils ont envie qu'on voit quelque chose, donc eux aussi vont aller négocier avec leur chef, avec leur commandant, avec leur capitaine, pour dire bon, là, le journaliste, il a vraiment envie de voir ça, je pense que c'est mieux de le laisser voir plutôt que de se mettre à dos, et puis sur telle autre séquence, bah, peut-être qu'on sera plus restrictif. Et en fait, le but, c'est d'essayer de trouver une sorte de compromis avec eux pour réussir à avoir le maximum de ce qu'on veut voir.
Aujourd'hui, les bois ne sont plus sûrs. Nos amis les chasseurs utilisent des armes à feu qui peuvent blesser ou même tuer des passants, comme des randonneurs ou même des habitants. Jadis, les gens avaient peur du loup. Maintenant, ils ont peur du chasseur. La suite est dans la prochaine émission de la web radio La Bouilla Presse.
Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission en immersion dans le Festival Expresso. Beaucoup de stress et de fatigue pour réaliser cette Bouilla Presse, mais nous reviendrons plus motivés que jamais pour la prochaine émission.
À très bientôt.